mars 2026, les élections municipales sur RMN.
Dans le cadre des élections municipales, je suis avec Monsieur Gabriel Michel, Les Républicains, avec une liste divers droite. Bonjour à vous.
Bonjour.
On commence tout de suite la valse des questions sur l'écologie, adaptation et énergie. Chalon s'est engagé dans une démarche zéro carbone. La canicule s'intensifie chaque année. Quelle est votre priorité pour 2026-2032 dans la continuité de ce combat ?
Alors je dirais que la particularité de Chalon est d'abord d'avoir un patrimoine ouvert qui est remarquable avec de nombreux hectares en centre-ville. Hein, je pense naturellement au Petit Jard, au Grand Jard, au Jard anglais, à d'autres endroits. Donc ce sont des îlots de fraîcheur sur lesquels nous devons capitaliser de mon point de vue pour poursuivre cette démarche de végétalisation qui accompagne une politique, je dirais, plus globale effectivement. Pour garder en qualité de vie et puis enrayer aussi cette augmentation de la chaleur. Donc ces îlots de fraîcheur sont à préserver, à valoriser. Nous avons des propositions pour la requalification naturellement aussi d'une partie des bords de Marne, pour l'anse du Jard et puis aussi pour la friche, si je puis dire, des bains municipaux. Donc des îlots de fraîcheur, si je puis dire, qui sont déjà existants, à compléter notamment avec ceux des cours d'école, puisqu'un travail a été engagé, et à juste titre, par la municipalité sortante sur la végétalisation des cours d'école. Je considère qu'il faut continuer cette démarche, puisque c'est encore une fois un moyen de ramener des îlots de fraîcheur aussi dans les établissements scolaires. D'autre part, je pense qu'il faut réaliser aussi, s'agissant des écoles, un audit bâtimentaire et envisager éventuellement des aménagements pour maintenir une température ambiante correcte et acceptable pour les élèves en cas de forte chaleur. Sur la démarche écologique et durable en tant que telle, je dirais que dans les objectifs de développement durable au niveau international, on parle beaucoup de ville du quart d'heure. L'avantage de Chalon est d'être déjà une ville du quart d'heure, puisque les déplacements sont assez facilités, les temps de trajet sont relativement réduits. Donc dans cette perspective-là, je pense que Chalon peut déjà capitaliser sur ses atouts qui sont inhérents à la typologie de la ville, qui est une ville moyenne, où les trajets sont assez faciles.
On va parler de sécurité à présent. La ville a beaucoup investi dans la vidéosurveillance haute définition par le projet Connect Chalon. Cependant, et on le voit sur les réseaux sociaux, le sentiment d'insécurité persiste dans certains quartiers. Quelle sera votre doctrine ?
Alors, nous avons deux volets sur la sécurité, un volet sur les moyens et un autre sur la stratégie. Alors, nous considérons qu'il nous faudra augmenter les moyens de la police municipale. Nous le ferons de plusieurs manières. La première est une augmentation simplement des effectifs de la police municipale, puisque l'équipe sortante a déployé la police municipale sur 8 autres communes, 8 communes supplémentaires de la très proche agglomération de Chalon. Et les effectifs ont été effectivement doublés, c'est l'argument du maire sortant, mais il oublie de dire que le périmètre a été étendu à 8 autres communes, ce qui conduit, de mon point de vue, à un manque d'effectifs, puisque nous ne sommes pas capables d'avoir une patrouille 24-24 des effectifs de la police municipale. C'est pourquoi nous augmenterons ces effectifs pour avoir une patrouille 24 heures sur 24. Nous solliciterons l'autorisation du procureur de la République pour l'instauration d'une brigade canine dotée de chiens stup pour dissuader et enrayer le trafic de stupéfiants. Nous mettrons en place davantage d'opérations conjointes de sécurité avec la police nationale. Nous considérons qu'elles devront être programmées chaque semaine. Enfin, il y a une coordination à engager davantage avec les services de l'État pour lutter contre les commerces suspects de blanchiment en centre-ville ou dans les autres quartiers de la ville. Sur le volet stratégique, nous proposons plusieurs outils. Le premier, c'est de coordonner l'ensemble des forces de sécurité, notamment les forces nationales et la police municipale, sous l'égide d'un comité, un comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui est présidé par le maire et qui permet d'adopter une stratégie locale de sécurité, avec en amont un diagnostic local de sécurité réalisé par ce comité, ce qui permet d'avoir l'ensemble des forces de sécurité sur la table. Et enfin, pour renforcer l'autorité parentale et puis rencontrer naturellement les parents d'enfants délinquants, nous instituerons un conseil des droits et devoirs des familles, CDDF, pour responsabiliser les parents et enrayer la délinquance juvénile. Donc une augmentation des moyens et une stratégie pour la sécurité qu'il nous faut adopter.
L'avenir des villes moyennes avec leur indépendance et le budget. On sait que le budget 2026 est marqué par une pression forte de l'État sur les collectivités locales. Dans ce contexte, comment comptez-vous préserver l'autonomie de Châlons face à Reims? Ou plus précisément, comment allez-vous maintenir un niveau de service public de proximité, la santé, la culture, dans l'éventualité où la fiscalité locale ne serait pas augmentée pour compenser la baisse des dotations nationales?
Alors je vous le confirme et je rassure tout de suite vos auditeurs. Naturellement, on a atteint un tel taux de pression fiscale au niveau national qu'il est absolument inenvisageable d'envisager une augmentation des taux de fiscalité locale. Vous l'avez dit, Châlons est une ville moyenne et certainement ce sont les villes moyennes qui pâtissent le plus de la réorganisation et des réformes territoriales depuis plusieurs décennies. Au niveau national, nous avons eu un mouvement de métropolisation depuis certainement les années 80 qui s'accentuait. Et cela a été bien dommageable pour les villes moyennes. Châlons doit trouver sa place dans une nouvelle architecture territoriale. Effectivement, Reims a mieux tiré profit de cela, puisqu'il s'agit d'une ville à dimension métropolitaine, avec une communauté urbaine importante. Ils ont beaucoup capitalisé aussi sur la liaison, la desserte ferroviaire TGV avec Paris. Châlons doit trouver sa place dans la Marne et puis effectivement dans le Grand Est, avec, je pense, une proximité avec Paris qui doit être exploitée, ce qui implique aussi de se battre auprès de la région pour avoir une desserte ferroviaire qui soit améliorée et qui soit efficiente, pour que cette proximité avec Paris puisse être aussi un levier de dynamisme. Alors nous parlions tout à l'heure de la ville du quart d'heure, je pense que l'un des créneaux pour Châlons est d'avoir la qualité d'une ville à taille humaine qui doit nous permettre d'attirer des jeunes familles ou des jeunes couples avec un projet familial, puisque le cadre de vie à Châlons est vraiment une des particularités de cette ville, une qualité architecturale et puis un cadre de vie très agréable. C'est, je crois, un levier pour enrayer, si je puis dire, le déclin qui est inhérent aux villes moyennes et qui se ressent à Châlons à fortiori depuis la crise d'identité que traverse Châlons, depuis le départ des militaires et celui du chef-lieu de région. C'est ce qu'il nous faut faire pour enrayer, si je puis dire, ce déclin. Et d'autre part, il y a naturellement des incertitudes budgétaires puisque les collectivités sont dépendantes des dotations attribuées par l'État et qui sont votées chaque année dans le projet de loi de finances. Jusqu'à présent, Châlons a été préservé, épargné par cette coupe dans les dotations. Ce n'est pas le cas de l'agglomération de Châlons qui a vu son budget légèrement réduit du fait de cette baisse des dotations. Alors, naturellement, ce sont des perspectives qu'il faut prendre en compte. Pour l'instant, Châlons n'a pas eu à pâtir de cela. Mais naturellement, ce sont des perspectives à envisager pour que la situation financière de la ville soit toujours sur une trajectoire saine.
Alors la question qui suit, justement, vous y avez un petit peu anticipé, mais on va la rejoindre. Châlons-Champagne, donc, comme de nombreuses villes moyennes, fait face au défi de retenir ses habitants et d'en attirer des nouveaux. Selon votre analyse, quel est aujourd'hui le principal frein à l'attractivité de notre territoire et quel levier prioritaire comptez-vous actionner pour redonner durablement de la vitalité?
Alors vous l'avez dit, une baisse démographique depuis de nombreuses années, sur les 5 dernières années, 1600 habitants en moins, on est aujourd'hui un peu moins de 43 000. Donc il y a naturellement une baisse démographique à enrayer. Nous considérons que le développement de l'enseignement supérieur peut être une solution pour neutraliser cette baisse démographique. Quand on compare l'écart de dynamisme entre Troyes et Châlons, je considère que le dynamisme supérieur de Troyes est en partie dû et certainement en grande partie par le fait qu'à Troyes nous ayons 10 000 étudiants, à Châlons on en a seulement 2300. C'est pourquoi nous proposons de développer vraiment une stratégie offensive de développement de l'enseignement supérieur. Alors il nous faut identifier, si je puis dire, les trous dans la raquette, puisque parmi déjà nos établissements implantés à Châlons, nous avons une effusion de la population étudiante, je pense à l'école des arts et métiers, où l'expertise de troisième année se fait très souvent en dehors de Châlons. Donc les deux premières années, les étudiants sont à Châlons, mais ils s'éloignent de la ville déjà dès la troisième année, ce qui ne contribue pas à favoriser leur implantation dans la région après leur diplôme. Il nous faut naturellement être offensif aussi sur l'implantation de nouveaux établissements supérieurs. Et ça doit être aussi le rôle de la communauté d'agglomération de pouvoir, à juste raison, subventionner les établissements lorsqu'ils souhaitent s'implanter et qu'un besoin de financement se fait sentir. Donc ce levier d'enseignement supérieur, je pense, permet de neutraliser, en tout cas en partie, cette baisse démographique. Et il y a naturellement un enjeu d'attractivité économique plus large pour enrayer cette crise. Nous proposons aussi de rouvrir le dossier du périphérique chalonnais, puisque c'est aussi une entrave au développement économique de la ville. Et encore une fois, nous devons capitaliser sur la qualité de vie à Chalon, l'améliorer de manière quotidienne, puisque des problèmes sur la voirie sont quand même parmi les préoccupations les plus récurrentes des Chalonnais que nous rencontrons. Une qualité de vie aussi qui dépend de l'entretien patrimonial au centre-ville et ailleurs, et de bien d'autres facteurs. Et l'offre de soins doit naturellement être bien prise en compte lorsqu'il s'agit d'avoir une attractivité. Je pense que beaucoup de personnes qui veulent s'installer dans une ville sont tout à fait sensibles à l'offre de soins, à la qualité du centre hospitalier pour envisager de s'installer dans une ville. Et c'est pourquoi nous avons plusieurs propositions aussi sur la santé pour enrayer cette désertification de l'offre de soins et pour également faire montre de volonté politique pour que la réhabilitation de l'hôpital soit confirmée et accélérée.
On va parler de politique culturelle et de rayonnement de la ville. Chalon-Champagne qui possède une identité forte qui est liée aux arts de la rue et au cirque, mais aussi et surtout, je dirais, un patrimoine historique riche. Quelle est votre vision pour la politique culturelle des 6 prochaines années ?
Alors, nous avons des propositions pour le patrimoine, d'autres aussi pour la culture. Commençons par la culture. Alors, la culture, considérons que nous remettrons en cause le projet de musée du cirque parce qu'il nous apparaît démesuré en matière d'investissement et surtout très incertain en matière de modèle économique et en termes de charges financières justement qu'il occasionnera chaque année pour la ville. Je pense qu'il sera difficile de faire moins d'un million d'euros de fonctionnement par an et ça nous paraît déraisonnable par rapport aux retombées qui peuvent exister pour la ville. Donc nous travaillons à cela pour étudier tous les scénarios de remise en cause de ce marché de maîtrise d'œuvre pour revenir sur ce projet. En parallèle, nous proposons de développer notre conservatoire. Nous sommes les seuls à proposer cela. Notre conservatoire est un établissement municipal. Nous proposons qu'il devienne un établissement à rayonnement départemental, ce qui nous permettra de proposer un cursus étendu, puisque les conservatoires à rayonnement départemental proposent un cursus qui va jusqu'à l'enseignement supérieur, l'enseignement préprofessionnel, qui est aussi un levier de développement pour la ville. Ce qui suppose naturellement de revoir et de reconfigurer les locaux du conservatoire qui sont sous-dotés et d'avoir cette stratégie pour les années qui viennent pour le conservatoire. Et enfin, un rééquilibrage du soutien au mode d'expression artistique, puisqu'il faut que les plasticiens, les arts dramatiques, les danseurs et les musiciens aient, dans le soutien qu'il est accordé, une équité de traitement. Nous proposons d'envisager un tiers-lieu culturel à destination de l'ensemble de ces modes d'expression artistique. Sur le patrimoine, il y a des urgences qui deviennent évidentes. Je pense à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, à la place Foch, à la rue de Marne, qui est un axe stratégique du centre-ville, qui est aussi une entrée de ville. Et enfin, l'église Saint-Loup, qui voit sa rénovation complètement mise en suspens depuis des années. Et nous proposons pour cela un plan pluriannuel de rénovation patrimoniale qui intégrera alors en priorité la collégiale Notre-Dame-en-Vaux dont l'état est fortement dégradé et devient vraiment préoccupant, avec naturellement un axe sur la place Foch, l'aile sud de la place Foch qui doit être requalifiée, puis ce n'est pas acceptable de suspendre encore pour plusieurs années ce projet. La rue de Marne doit également être qualifiée urgemment puisque c'est, il en va de l'image de la ville et aussi du dynamisme du centre-ville et de l'entrée de ville. Et voilà. Et l'église Saint-Loup doit voir sa rénovation poursuivie puisque on ne peut pas satisfaire d'avoir trop d'attentisme sur ce sujet.
Merci beaucoup Gabriel Michel.
Merci à vous.
Mars 2026, les élections municipales sur RMN.